Ilham Karimov, il arrive au pouvoir à la fin de l'ère soviétique. Il voit donc l'indépendance de son pays et en devient son premier président. Son règne a duré 25 ans à la tête de l'Ouzbékistan. Il a été un dictateur assez féroce. Il a dû gérer le pays le plus peuplé d'Asie centrale, donc 31 millions d'habitants. Il l'a fait avec à la fois répression politique et des positions en politique étrangère un petit peu ambivalentes. Il était parfois proche de la Russie, parfois proche de l'Occident. Il a souvent alterné les alliances. Son bilan au total est en matière de droits de l'homme ou de respect de l'opposition politique est assez catastrophique. En matière de politique étrangère et économique, il est acceptable, on pourrait dire.
Donc Islam Karimov serait dans un état critique selon les autorités ouzbèques. Quel est le scénario pour sa succession ?
La succession dans ce type de régime, elle est toujours un petit peu compliquée. C'est toujours des processus très opaques. Beaucoup parlent du premier ministre actuel, Shavkat Mirziyoyev, qui est le successeur le plus évident, mais on parle également du ministre des Finances, Roustam Azimov, qui serait un petit peu en concurrence avec le Premier ministre sur cette succession. Il y a un personnage central qui joue un rôle particulier dans tout le processus et plus généralement dans l'État ouzbek depuis une quinzaine d'années, c'est Roustam Inoyatov, qui est le chef des services de sécurité ouzbek, qui est un peu l'éminence grise de l'ancien président Karimov et qui jouera un rôle essentiel dans la succession sans que lui-même, a priori, ne soit successeur.
Et finalement, quel que soit l'un de ses successeurs, qu'est-ce que ça changerait à la politique en Ouzbékistan aujourd'hui ?
Pour l'instant, on estime que ça ne changerait probablement pas grand-chose. Le régime devrait poursuivre ses politiques répressives envers toute forme d'opposition. Les inclinations de politique étrangère devraient rester les mêmes, c'est-à-dire que on assiste à un léger rapprochement avec la Russie. Les tensions avec les voisins tadjiks et kirghizes devraient continuer. On ne sait pas si le successeur, par exemple, jouera du nationalisme davantage que Karimov. Souvent, le nationalisme est utilisé comme moyen de légitimer un régime, d'autant qu'un nouveau président aura besoin d'asseoir une certaine légitimité. Donc, il pourrait utiliser le nationalisme pour asseoir son pouvoir, auquel cas les relations avec les pays voisins pourraient s'en voir dégradées.
Donc, on peut difficilement imaginer qu'il y a un élan démocratique et que l'opposition jusqu'ici réprimée puisse revenir sur la scène politique ouzbèque.
C'est assez difficile à imaginer, effectivement, tant la répression politique a été forte durant 25 ans. La plupart des opposants politiques sont à l'étranger. Après, ces périodes de transition sont toujours un petit peu incertaines. Certains mouvements pourraient profiter du vide politique au pouvoir, même s'il est extrêmement réduit. Finalement, c'est plus une question psychologique qu'autre chose. A priori, la transition est, à mon avis, parfaitement maîtrisée pour l'instant. Certaines forces d'opposition pourraient en profiter pour essayer de réclamer davantage de droits ou l'opposition, par exemple, islamique voudrait peut-être desserrer l'étau qu'il y a autour de la pratique religieuse. Ça, on ne sait pas, mais ça semble assez peu probable pour l'instant.
Et pour la population qui n'a pas connu d'autres dirigeants qu'Islam Karimov depuis 25 ans, comment serait accepté un nouveau dirigeant ?
C'est vrai que Karimov avait l'aura du vieux leader auquel on est habitué et donc qu'on ne conteste plus vraiment. Un nouveau venu qui n'a pas la même légitimité, qui n'a pas la même aura, le même charisme que Karimov, pourrait provoquer peut-être un rejet auprès d'une partie de la population, mais une grande partie de la population aussi souhaite la stabilité du pays et ne veut pas que le pays sombre dans le chaos alors qu'elle commence à bénéficier de certains avantages économiques. Le pays a connu une période de croissance assez élevée ces 10 dernières années, donc une partie de la population ne souhaite pas voir disparaître ces avantages et donc a intérêt à la stabilité.
Ces annonces du mauvais état de santé du président Karimov concordent avec la fête de l'indépendance de l'Ouzbékistan. 25 ans après, pour le successeur, quels sont les défis à relever aujourd'hui?
Alors les défis sont assez nombreux sur le plan intérieur. Les conditions économiques du pays se sont un petit peu dégradées depuis 2 ou 3 ans, à la fois par une chute des exportations de coton, dont le cours est assez bas en ce moment, et la chute des revenus des hydrocarbures qui, là aussi, subissent les contre-coups de la chute des cours de l'été 2014. Donc un État qui a un petit peu moins d'argent, une économie un peu moins florissante, des défis régionaux, notamment dans la vallée du Fergana, où traditionnellement les populations sont plus méfiantes envers le pouvoir central, avec des trafics, avec du crime organisé, et puis des défis internes également, avec la présence de certains islamistes radicaux qui pourraient éventuellement pratiquer des attentats dans le pays. Des défis à l'extérieur, avec la Russie qui souhaitera probablement renforcer son influence sur l'Ouzbékistan, qui lui avait un petit peu échappé depuis 25 ans, qui peut-être augmentera la pression pour le faire rentrer dans ses organisations régionales et notamment l'Union Eurasiatique. D'autre part, des défis avec les voisins kirghizes et tadjiks, avec qui il y a des problèmes à la fois frontaliers, à la fois sur la gestion des eaux. L'Ouzbékistan étant en aval de certains fleuves sur lesquels des projets de barrages sont envisagés au Kyrgyzstan et au Tadjikistan, ce qui réduirait le volume d'eau notamment pour l'Ouzbékistan. Il y a aussi la frontière avec l'Afghanistan qui est toujours un petit peu difficile à maintenir. Il y a eu des morts cette année sur cette frontière et des heurts réguliers avec les talibans de l'autre côté. Donc les défis qui attendent le futur président ouzbek sont assez grands, tant sur le plan interne que sur le plan externe.
Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas désigné de successeur lui-même, Islam Karimov?
C'est compliqué, il y a deux méthodes, on peut dire. C'est que soit on coupe toutes les têtes qui dépassent jusqu'à ce qu'on meure, comme ça on n'a pas à gérer les luttes et à gérer l'éventuelle ambition de celui qui a été désigné et qui pourrait peut-être souhaiter prendre le pouvoir un peu avant. Soit effectivement on prépare la succession. On a l'impression que c'est le cas au Kazakhstan voisin, qui en fait a la même situation, un président qui est là depuis l'époque soviétique et qui a priori avait également des problèmes de santé. On sent que lui commence à préparer la succession. Il a fait des réformes pour donner davantage de pouvoir au Parlement, par exemple. Donc c'est plus des changements institutionnels qui supposent que le futur président aura un petit peu moins de pouvoir que lui-même n'en avait. Mais aucun successeur n'est clairement désigné également au Kazakhstan. C'est compliqué de gérer ce type de choses puisqu'il y a beaucoup à la fois des enjeux politiques et économiques qui sont liés. Souvent les familles qui entourent ces dictateurs sont à la tête d'empires économiques qu'il faut gérer. Est-ce que la désignation d'un successeur pourrait pas poser problème à ces empires économiques sur ce point?